Aujourd'hui c'est samedi, nous sommes le 17 avril. Voici le journal de Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour, Jean Castex veut à nouveau témoigner de son soutien au monde agricole. Le Premier ministre se rend aujourd'hui dans trois départements du sud de la France, balayés par deux épisodes de gel qui ont ravagé les récoltes. Certains viticulteurs et arboriculteurs ont tout perdu, alors ils attendent beaucoup. Une fête clandestine en plein confinement, ça fait mauvais genre. Alors dans un hôpital en plus, eh bien forcément la polémique n'est pas loin. Une enquête interne ouverte à l'hôpital Rangueil de Toulouse après une petite sauterie entre internes et médecin. Et puis plus rien n'arrête SpaceX, l'entreprise de l'excentrique milliardaire Elon Musk vient de décrocher un contrat avec la NASA. Objectif, la Lune, évidemment, pour y envoyer les prochains astronautes américains.
Et puis les invités de cette matinale à 8h10, ce sera la journaliste scientifique Suzanne Priva pour son livre intitulé La Famille, une enquête sur la très discrète communauté religieuse du même nom à Paris. Et à 8h20, question politique avec Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération S. Il est aussi candidat sur la liste régionale de l'écologiste Julien Bayou en Île-de-France.
France Inter.
Et voilà donc le Premier ministre à nouveau au chevet des agriculteurs.
Après l'Ardèche la semaine dernière, Jean Castex est attendu aujourd'hui dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Alors, il ne sera pas seul, hein, accompagné de son ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui sera d'ailleurs invité à Don n'arrête pas l'écho après le journal de 9h. Le gouvernement a promis des enveloppes d'indemnisation exceptionnelles, alors il doit maintenant en préciser le montant. Un tiers des exploitations françaises ont été affectées par cet épisode météorologique. L'aide de l'État forcément sera scrutée de près. Il faut dire que l'inquiétude est grande, notamment dans l'Aude et l'Hérault. Stéphane Iglesis.
Viticulteurs et arboriculteurs attendent le Premier ministre de pied ferme. Ils sont inquiets du dérèglement climatique. Paul Couella, à Val-Lambronne dans l'Aude, produit des pommes et des pêches et depuis 5 ans, les catastrophes se succèdent.
Ces 5 dernières années, nous avons connu 3 gelées importantes. Une première gelée avec 100% de récolte détruite, une deuxième gelée avec simplement 30 à 35% de récolte et à nouveau cette année, une gelée avec probablement 100% de récolte détruite. On a fait un emprunt l'année passée de 50 000 euros et cette année, il faut le rembourser. Et on n'a pas de récolte. Ces 5 dernières années, 3 gelées, 2 canicules sévères avec des manques d'eau, des fruits détruits par le soleil, un contexte Covid qui nous a pénalisés parce que nous sommes en vente directe. On nous a l'année passée fermé les marchés, on nous a fermé la vente à la ferme.
Denis Cartier est président de la Chambre d'agriculture d'Occitanie. Il est aussi viticulteur dans l'Hérault et lui aussi subit les nuits de gel.
On a pris une boîte, là, un gel massif sur peut-être pas complètement 100%, peut-être entre 50 et 80%. On verra le Premier ministre, on va lui dire qu'aujourd'hui, mais le quoi qu'il en coûte du président de la République, mais là maintenant, et il faut le mettre au service de l'agriculture.
Comme le dit un arboriculteur rencontré, pour nous la notion de réfugié climatique c'était flou. Désormais, nous savons ce que c'est. Près de Limoux dans l'Aude, Stéphane Iglesis, France Inter.
Cela fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu autant de personnalités de gauche assises autour d'une même table. Eh bien, le rendez-vous est donné à 10h dans un hôtel parisien. C'est l'écologiste Yannick Jadot qui a envoyé les cartons d'invitation, des discussions pour dessiner un éventuel programme commun pour la présidentielle de l'an prochain et même, pourquoi pas, un possible candidat commun. À quasiment 100% des résidents français en EHPAD ont reçu une première injection d'un vaccin contre le Covid-19 et près des 3/4 ont eu le droit aux 2 doses. C'est ce qu'a assuré hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. L'immunité semble à portée de main et pourtant, rendre visite à un proche en maison de retraite relève parfois encore du parcours du combattant. Le ministère de la Santé préconise une prise de rendez-vous, ajoutez à cela des établissements qui imposent le plexiglas lors des visites et vous obtenez des familles exténuées. Benjamin Boucriche.
Florence a des cernes sous ses lunettes rectangulaires. Sa mère est vaccinée avec les 2 doses, mais elle ne peut lui rendre visite que sur rendez-vous et pour une durée de 45 minutes.
C'est pas suffisant, évidemment. Elle a besoin de plus proximité. Elle a besoin de davantage parler. Et là, on est stressé. On est stressé par l'heure. Attention, c'est la fin. On va me dire de partir.
Aujourd'hui, elle ne supporte plus ces restrictions.
Je suis très, très fatiguée psychiquement. Depuis 1 an, il faut se battre pour garder le contact avec ma mère dont je m'occupe depuis toujours, à vrai dire. Je pense que c'est pour beaucoup dans mon état psychologique aujourd'hui que je trouve pas très bon.
Mais tous les établissements ne sont pas aussi stricts, souligne Yann Reboulot, le directeur du groupe Philogéris, gère 20 d'EHPAD.
On a autre chose à faire que d'avoir un chronomètre entre les mains, de fixer des restrictions, de surveiller. Oui, il faut respecter les gestes barrières, mais il y a un besoin affectif qui est énorme, surtout qu'ils sont vaccinés. On approche les 95% de résidents vaccinés. Fixer des règles générales, collectives, me paraît complètement disproportionné.
Au Au ministère de la Santé, on souligne que les visites sur rendez-vous sont une simple recommandation. Ce sont aux directions d'établissement de s'adapter à la situation.
Un reportage signé Benjamin Boucriche.
Et si dans les EHPAD, on n'a pas le cœur à la fête, eh bien l'ambiance était tout autre vendredi dernier à l'internat de l'hôpital Rangueil de Toulouse.
Une cinquantaine d'internes et de praticiens ont participé à une soirée clandestine dans les locaux de l'internat. Alors évidemment, en plein confinement, eh bien l'exemplarité en prend un coup et la direction du CHU n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Elle a annoncé l'ouverture d'une enquête. Didier Carrier est le doyen de la faculté de médecine de Toulouse-Purpan. Il est au micro de Manon Klein de France Bleu Occitanie.
On est ébranlé, voire scandalisé de la tenue de cette manifestation, clandestine, on va dire, à l'internat de Rangueil. Comme d'habitude, les services de sécurité internes au CHU font des rondes régulièrement. Et ce sont donc eux qui se sont aperçus qu'il y avait cette soirée clandestine donc à l'internat.
Une enquête interne a été ouverte, c'est quoi l'objectif ?
Ben, l'objectif, c'est quand même, on va dire, de faire toute la lumière. C'est une affaire, comme je vous l'ai dit, tout à fait honteuse et qui a été organisée dans nos bâtiments, où nous en avons la responsabilité. L'association donc des internes, bien sûr, et notamment son président, n'était pas au courant. Le but, bien sûr, de cette enquête est de déterminer l'identité des organisateurs, des participants, pour sûrement aller plus loin en termes de sanctions.
Et en attendant les résultats de l'enquête interne, l'internat est fermé ce week-end. Autre enquête, toujours en cours, celle ouverte après l'enlèvement dans les Vosges de la petite Mia. 4 personnes sont toujours en garde à vue, au moins 3 sont soupçonnées d'appartenir à la sphère survivaliste. Elles avaient d'ailleurs été repérées par la DGSI. C'est la mère de la fillette qui n'en avait plus la garde qui les aurait contactées afin de planifier l'enlèvement. Les ministres américains de la justice et de la sécurité intérieure, désormais persona non grata en Russie. Même chose pour le patron du FBI. Il y a plusieurs ONG accusées de s'ingérer dans la politique intérieure russe. Moscou réplique après des sanctions imposées jeudi par Washington qui dénonce une escalade regrettable à des relations tendues, alors même que le Kremlin et la Maison-Blanche évoquaient il y a quelques jours encore un possible sommet bilatéral cet été. Et pendant ce temps, au Royaume-Uni, les obsèques du prince Philippe auront lieu cet après-midi. L'époux de la reine Elisabeth II est mort la semaine dernière à l'âge de 99 ans. La cérémonie se fera en petit comité, pandémie oblige, mais une minute de silence doit être observée à 15h heure locale dans tout le Royaume-Uni. Vous en rêviez, lui va le faire, le refaire même. Dans 5 petits jours, l'astronaute français Thomas Pesquet s'envolera pour la Station Spatiale Internationale à bord d'une fusée SpaceX. Et avant même le décollage, eh bien, nouvelle victoire pour la société du milliardaire Elon Musk qui s'est vu confier par la NASA la responsabilité de renvoyer des hommes sur la Lune dans les 3 ans à venir. À Washington, Grégory Phillips.
SpaceX, créé en 2002 par Elon Musk, s'impose de plus en plus comme un acteur incontournable de la conquête spatiale. L'an passé, elle est devenue la première entreprise privée à envoyer avec succès un équipage à bord de la station internationale. Elle recommencera jeudi avec le lancement prévu de sa fusée Crew Dragon depuis Cap Canaveral. D'autre part, la NASA vient donc d'officialiser son choix. C'est bien SpaceX qui était retenu pour envoyer les prochains astronautes américains sur la Lune grâce à son vaisseau Starship qui sera utilisé pour la phase d'alunissage. Le contrat est énorme, 2,9 milliards de dollars. SpaceX a été préféré à la société Blue Origin créée par un autre milliardaire, Jeff Bezos. Pour l'instant, l'alunisseur de SpaceX est encore en phase de test au Texas, mais l'objectif fixé est 2024. Quant à Elon Musk, il voit encore plus loin la planète Mars qu'il dit vouloir conquérir d'ici 2030. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Allez, le tournoi de tennis de Monte-Carlo à présent avec celui qui était l'invité surprise des demi-finales.
Daniel Evans, tombeur du numéro 1 mondial Novak Djokovic en 8e. Il va tenter de se qualifier pour sa première finale d'un Masters 1000. Et pour ça, eh bien, il lui faudra battre le grec Stefanos Tsitsipas. Le britannique est pour l'instant dans le dernier carré. Et ce n'était pas franchement écrit, hein. Le tennis n'a pas toujours été sa priorité. Son portrait avec Fabrice Abgral.
De la main droite, il tient sa raquette. Sur son bras gauche, il a tatoué chaque saint à un passé, chaque pêcheur a un futur. Dans cette phrase, tout est dit sur la personnalité de Daniel Evans. Cet Anglais, né à Birmingham il y a 30 ans, a toujours préféré les sorties nocturnes plus ou moins alcoolisées aux exigences du tennis professionnel. Il a tellement multiplié les frasques que Daniel Evans a longtemps été considéré à ses débuts comme le plus grand gâchis du tennis britannique. Il en est devenu l'enfant terrible jusqu'au jour où il en a été exclu pour un contrôle positif à la cocaïne. Daniel Evans a été suspendu un an. Quand il revient en avril 2018, il n'a plus de classement. Evans a alors 28 ans et il décide de rattraper le temps perdu. Fini alors les nuits agitées, il s'achète une conduite et reprend le fil de sa carrière. Le voilà aujourd'hui 33e mondial et pour la première fois en demi-finale d'un tournoi Masters 1000 qui plus est sur terre battue. Une surface sur laquelle, avant d'arriver à Monte Carlo, il n'avait remporté que 2 matchs. Là, il en a déjà gagné 4, dont un en 8e de finale face à Novak Djokovic. Une 5e victoire aujourd'hui et il deviendrait le premier britannique à se hisser en finale sur le rocher.
Et l'autre demi-finale opposera le Norvégien Casper Ruud au Russe Andrei Rublev, tombeur hier de l'Espagnol Rafael Nadal.
Une sacrée performance, effectivement. C'était le journal de Gaëtan Plenet. Le temps.
La météo avec les meubles Gautier. Créateur, designer et fabricant français de meubles pour toute la maison. À retrouver dans nos magasins et sur gautier.fr.
Jean-Michel Golinski, on pourra compter cet après-midi sur des températures au-dessus des moyennes sur l'ensemble du pays ?
Non, en dessous.
Ah, dessous, je disais dessus, je me disais tiens, ben non, toujours frais alors.
Le dessus, c'est pour la suite. Alors, pour aujourd'hui, le vent du nord va maintenir une certaine fraîcheur, on va dire entre 10 et 13 degrés en général sur les deux tiers nord. Il est prévu 15 à 17 de la Garonne à la Méditerranée. À partir de demain, tout de même, les thermomètres vont commencer à remonter et devenir printaniers au nord comme au sud en début de semaine. Aujourd'hui, c'est sur les régions méridionales, de la moitié est des Pyrénées au contrefort du Massif central et des Alpes du Sud à la Méditerranée que le ciel sera le plus mitigé, avec des averses, de l'orage, de la neige à partir de 500 mètres ce matin. Plus au nord, temps sec, dégagé en matinée, un peu plus variable en journée mais sans conséquences. Et puis à noter, le Mistral, la Tramontane et le vent de nord-est près de la Manche assez sensible.
Jean-Michel Golinski, Météo France.